Et en Provence, Émilie Brifaut.
Et rien d'étonnant, à cette heure-ci, les premiers ralentissements sur la 7.
C'est l'heure de pointe qui arrive, donc entre la sortie L2 et plan de campagne sur la 7 en direction d'Aix-Lyon, le trafic est déjà chargé.
Et la journée est plutôt belle.
Avec un ciel voilé, des vents faibles de secteur ouest, température ce matin pour Marseille 13 degrés, pour Toulon 11 degrés, Aix-en-Provence 8 degrés, Digne 7 degrés et Gap 8 degrés. Cet après-midi, 18 à 23 degrés en Provence, 18 degrés pour Marseille. Dans les Bouches-du-Rhône, certains candidats au permis de conduire ont trouvé le moyen de décrocher leur code très facilement.
Et oui, en effet, pour ces petits malins, pas besoin de réviser pendant de longues heures le code pour répondre ensuite aux fameuses questions pièges. Les candidats mettaient seulement la main au porte-monnaie. Une vaste escroquerie a été mise à jour. Elle impliquait les gérants d'un centre d'examen et d'une auto-école dans les Bouches-du-Rhône et elle a profité à beaucoup de monde, Christophe Van Ven.
Cette arnaque a bénéficié à plus d'un millier de candidats. Ils ont déboursé entre 150 et 1000 euros pour décrocher leur code de la route sans avoir à passer les épreuves. Les profits de cette fraude sont évalués à plusieurs centaines de milliers d'euros, ce qui a conduit les enquêteurs à saisir des biens immobiliers, des voitures et de l'argent sur les comptes bancaires. Les quatre suspects soupçonnés d'être à l'origine de cette fraude seront jugés devant le tribunal correctionnel le 12 avril prochain pour escroquerie en bande organisée, blanchiment et corruption. Les bénéficiaires des faux codes de la route, eux, vont être poursuivis pour que leur permis de conduire leur soit retiré.
Et en attendant leur procès, deux des suspects ont été placés en détention provisoire, les deux autres sous contrôle judiciaire. Sur la route toujours, deux radars du nord des Bouches-du-Rhône ne flashent plus depuis hier soir et pour cause, ces deux radars, l'un à Fourques et l'autre près d'Arles, ont été bâchés par les agriculteurs en colère. Façon pour eux de rappeler qu'ils sont toujours là.
C'est l'une des plus grandes énigmes judiciaires françaises.
La mort du petit Grégory, l'enfant de 4 ans retrouvé dans la Vologne, dans les Vosges, près de 40 ans après, l'enquête se poursuit. De nouvelles expertises arrivent. La justice, Pierre de Cossette, va une nouvelle fois se pencher sur l'ADN et sur les enregistrements du corbeau.
Ce sont peut-être elles qui renferment le secret du meurtre de Grégory Villemain. Les cordelettes qui nouaient les poignets du petit garçon de 4 ans lorsque son corps a été découvert dans la Vologne en 1984. De nombreuses expertises ADN ont déjà été effectuées, mais il reste des comparaisons à faire dans les familles Villemain et Laroche. Comparaisons aussi avec des traces génétiques retrouvées sur l'anorak du garçon et les lettres du mystérieux corbeau. C'est ce que demandaient les parents de Grégory et qu'a donc accordé la cour d'appel de Dijon l'avocate des parents Villemain, maître Marie-Christine Chastan-Morand.
Nous sommes très satisfait de la décision qui a été rendue, dans la mesure où le moteur de l'action des parents de Grégory, de Christine et Jean-Marie de Villemain, c'est de faire la lumière sur les derniers moments de la vie de leur enfant. Donc, à partir du moment où les gens ne parlent pas, il faut essayer de faire parler la science. On ne peut pas savoir quels vont être les résultats des expertises. Ça, c'est absolument impossible. Mais vraiment, ce qui anime Christine et Jean-Marie Villemain, c'est que la justice se donne tous les moyens pour essayer d'y arriver.
La justice qui va aussi demander à des experts s'il est possible de faire des comparaisons entre les messages téléphoniques du fameux corbeau et d'autres enregistrements de l'époque, comme des interviews à la télévision.
Pierre de Cossette pour France Bleu Provence. Ancien ministre de la Culture et neveu de l'ancien président de la République, Frédéric Mitterrand est mort à l'âge de 76 ans après avoir lutté pendant plusieurs mois contre un cancer agressif.
Question simple ce matin sur France Bleu Provence. Émilie, faut-il réformer la loi SRU ?
Créée en 2000, cette loi contraint les communes à un quota de 20 à 25% de logements sociaux selon leur taille. Et quand le deal n'est pas respecté, les villes doivent payer une amende. C'est le cas de Saint-Mittre-les-Remparts qui devra cette année payer près de 400 000 euros pour ne pas avoir respecté ce quota. Le maire d'Hiver Droite, Vincent Goyer, en a assez d'être montré du doigt.
L'incapacité de l'État, en tout cas ici dans les Bouches-du-Rhône, des services de l'État, à tenir compte des efforts réellement engagés par les maires et à s'en tenir à une logique arithmétique, nous conduit à être dénoncés, désignés comme de mauvais élèves, de mauvais maires, alors que nous faisons le maximum. Construire et construire du logement social, oui, mais il faut aider les communes et non pas les punir.
Et vous êtes taxés.
Chaque année à Saint-Mittre-les-Remparts, nous avons un prélèvement qui vient de nous être annoncé à hauteur de 369 000 euros. Donc ça rogne considérablement notre capacité à investir pour la commune. Et c'est pour ça qu'on a porté un recours devant le tribunal administratif. Depuis le début de mon mandat, je me suis retrouvé à 3 reprises face au préfet sur des procédures. On a gagné à 3 reprises.
Le maire de Saint-Mittre-les-Remparts, interrogé par Laurent Grelet, le Rassemblement national veut faire assouplir cette loi SRU avec une proposition de loi présentée ce matin sur France Bleu Provence. Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône, est notre invité à 8h10.
Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'il faut encore sanctionner les communes en manque de logements sociaux? La loi SRU doit-elle être assouplie selon vous? Et puis, dites-nous si vous êtes en attente d'un logement social et depuis combien de temps? Venez témoigner ce matin au 04 42 38 08 08.
Et les parents de l'école primaire Saint-Mittre dans le 13e arrondissement de Marseille ont besoin d'être rassurés urgemment. Depuis plus d'une semaine, de nombreux enfants ne vont plus en classe et la découverte de punaises de lit dans une classe de CM1 qui a semé la psychose. L'opération de désinfection menée par la mairie n'aurait pas réglé le problème. Un nouvel insecte aurait été retrouvé hier. Une réunion est donc prévue cet après-midi avec l'adjoint à la mairie en charge du dossier. Le député marseillais LFI, Sébastien Delogu, a décidé de s'inviter sur place. Un ouf de soulagement pour les salariés des 26 galeries Lafayette de France, dont celle de Toulon. Le tribunal de commerce de Bordeaux valide le plan de sauvegarde. 1 million d'emplois est donc conservé pour l'instant.
C'est la journée mondiale de l'eau et ce matin, on vous emmène visiter l'une des 3 usines d'eau potable à Marseille.
Oui, l'usine de Saint-Marthe dans le 14e arrondissement, gérée par la SEM, elle fournit 55% des besoins de la ville et ils sont très nombreux. Les Marseillais consomment en effet 250 000 mètres cubes d'eau par jour. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent d'une centaine de piscines olympiques. Et pour notre plus grand plaisir, Fred Chapuis, vous avez fait pour nous ce matin le parcours de l'eau brute jusqu'au robinet.
Oui, l'eau captée dans la Durance au nord-ouest d'Aix est transportée par le canal de Marseille jusqu'à l'usine de Sainte-Marthe. Il faut alors la clarifier, explique Lionel Stora de la SEM.
Elle va filer dans le grand bassin qui est là-bas. Là, on va injecter du chlorure ferrique et ça va aider à ce qu'elle décante.
Débarrassée de la boue, l'eau est ensuite filtrée dans des bassins.
Là, on est sur de la filtration en sable et quand on sort des filtres, on a une eau qui est parfaitement claire.
À ce stade, l'eau est claire mais pas encore potable. Pour la dernière étape, nous sommes dans la salle d'ozonation.
Des arcs électriques qui permettent de transformer l'oxygène en O3, l'ozone.
Une désinfection chimique pour éliminer virus et bactéries. Laurent Chapon, chef des études et travaux à la SEM.
C'est le contact avec l'eau qui permet de purifier l'eau.
Fabrice observe d'un œil expert les bulles d'ozone.
La taille des bulles, pour qu'elles soient fines, elles vont mieux pénétrer dans l'eau. C'est comme dans les aquariums en fait.
Le circuit de l'eau se termine dans une espèce de grand jacuzzi.
Visualiser en fait l'eau qui part dans le réseau de distribution et qui va arriver jusqu'au robinet.
Là, on peut la boire.
Ah oui, elle est potable.
Une eau potable garantie pendant 8 heures, mais les Marseillais la consomment le plus souvent dans l'heure qui suit son traitement en usine.
Et en hiver, l'eau sort à environ 10 degrés, une vingtaine de degrés en été. On vous a mis les photos, les vidéos donc de cette usine sur francebleu.fr.
Voilà, un petit verre d'eau fraîche ce matin, ça fait du bien. Pas d'eau dans le ciel de Provence aujourd'hui.